les low-tech, c'est un appel à ça, c'est un appel à dire attention, il n'y a pas que l'innovation techno. Et si on espère tout miser sur l'innovation technologique, bah c'est la voiture de James Dean devant la falaise et promis, on va inventer les ailes. Quoi.
Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui.
Philippe Biwix est un des premiers en France à s'être intéressé de près à la question des limites des ressources en métaux, et en particulier des métaux rares, et de leur importance dans la production des objets high-tech dont nous sommes devenus si friands. Dans cet épisode, il partage sa vision du futur et met le doigt sur les incohérences des modèles actuels de transition et explique pourquoi la seule solution, selon lui, est d'arrêter le gaspillage et d'accepter de revenir à des technologies plus simples et donc davantage recyclables et moins consommatrices de ressources. On y va ?
Je te dis bonjour ou bonsoir ?
Ça résonne
non,
un
rien.
Peu.
Peut-être toi tu dis bonjour.
Je dis bonjour. Ouais. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, je viens de finir dans le métro ton dernier livre qui s'appelle L'âge des low-tech. Enfin, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais c'est le qui a été publié il y a déjà 4 ans et qui faisait un peu office de suite à un premier livre publié en 2010. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, qui s'appelait Quel futur pour les métaux.
Oui, livre collectif pour le coup.
Livre collectif. Et donc, tu as depuis écrit un autre livre qui s'appelle sur le désastre du numérique à l'école. Je sais pas si on aura le temps d'évoquer ce sujet-là, mais... Enfin, t'as bien pris le temps de creuser la question que j'essaie de traiter sur ce podcast, qui est en gros où va le monde et qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer. Mm-hmm. Où est-ce que t'as trouvé le temps d'écrire ces livres à côté de ton travail au quotidien et comment t'es tombé en fait sur ces sujets-là, notamment les métaux et les low-tech?
Alors, comment j'ai trouvé le temps? Ça a été un peu variable par livre. On va dire que le premier, qui était Quel futur pour les métaux, c'était d'abord un livre collectif et qui était tout à fait dans la mouvance des questions un peu de développement durable à la fin de la décennie 2000, dont s'étaient emparées un peu toutes les entreprises et les cabinets de conseil, dont celui dans lequel je travaillais. Donc je dirais que tout ce qui est un peu récolte de données, réflexions et tout s'est fait un peu au fil de l'eau sur les années 2006 à 2009. Le livre a été publié en 2010, donc ça n'a pas été un... Et puis à nouveau, c'est un effort collectif, donc ça n'a pas été trop compliqué, in fine. L'âge des low-tech, c'est le premier vrai livre qu'on écrit tout seul, donc il y a une certaine motivation. C'est tous les soirs de 9h30 à 11h30, tous les jours que Dieu fait pendant 150 ou 200 jours, et puis ça le fait à peu près. Puis le désastre de l'école numérique, c'est écrit plus dans l'urgence, on va dire le couteau dans le dos, parce que c'est à la fois c'était un sujet vraiment d'actualité, qui me tenait à cœur par rapport à la numérisation de l'école que je voyais arriver à travers mes enfants, commencer par ça, encore assez jeune à l'époque. Et donc on a écrit très très vite, puis on l'a écrit à deux, donc c'est plus facile. Et alors le sujet des ressources, je suis tombé dedans au tout début des années 2000. En fait, je me posais pas mal de questions sur justement où va le monde, on va dire, et pourquoi, je sais pas, il y a de la déforestation et les rhinocéros disparaissent, que sais-je. J'ai toujours eu une petite fibre un peu écolo. Et donc au fil de mes lectures, j'ai fini par tomber sur les écrits de... comment on dit, du pape de la décroissance, du maître à penser des décroissants, Georges Kouroghen, un des rares économistes à s'être intéressé justement à cette question des ressources dans les années 70. Et avec quelques images assez frappantes, je me souviens chaque portière de voiture allait être un soc de charrue en moins pour les générations futures. Il y avait le frais de la monnaie, quand on frotte la pièce de monnaie, elle s'use, et puis après on se lave les mains et ça termine dans la mer, etc. Et donc toute consommation de ressources finalement est inéluctable, parce que on peut pas lutter contre le second principe de la thermodynamique, qui fait qu'en gros on en perd toujours un peu. On va résumer ça comme ça, assez simplement. Et donc ça m'a un peu perturbé. J'avais une voiture aussi à l'époque, donc 4 portières, ça faisait 4 socs de charrue pour les générations futures. Bon, depuis, je me suis un peu déstressé sur l'acier, parce que si on fait des socs de charrue, alors déjà, il paraît qu'il faut pas forcément faire trop de labour profond. Mais bon, on se dit qu'il faudra quand même quelques outils en fer. Bon, c'est pas trop.
Très tôt, tu t'es posé la question dans ton environnement autour de toi, de où est-ce que tout ça allait.
Ouais, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans cette décennie 2000, on peut dire, dans laquelle je travaillais dans le conseil, je travaillais dans pas mal d'industries différentes. C'est un peu l'intérêt ou le désintérêt du conseil, et à chaque fois du coup bah voilà, j'y glanais quelques informations sympathiques comme ça au gré de mes missions sur la consommation de ressources, comment ça fonctionnait. J'ai toujours été très curieux de comment sont fabriqués les objets qui nous entourent, et donc voilà, ça pouvait être dans l'aéronautique, dans les télécoms, dans les industries de procédés, je sais pas, les engrais. Alors voilà, une entreprise dans les engrais, mais il y a un catalyseur aux platines rhodium. Mmh. Comment ça fonctionne? De temps en temps, faut le changer, ça s'use un peu, et donc voilà, on en déduit qu'on mange chacun quelques milligrammes de platine chaque année pour faire pousser les céréales dans nos champs.
Alors, on peut commencer par ce sujet des métaux, du coup. C'est quoi le sujet, justement? C'est quoi le problème avec ces ressources de métaux? C'est que sur ce qu'on appelle les métaux rares, les terres rares, c'est...
Non, alors, donc déjà, un petit peu de sémantique. Donc, il y a les terres rares, qu'on appelle aussi les lanthanides, c'est une dénomination d'une quinzaine de métaux différents qui sont pas particulièrement rares, d'ailleurs, d'un point de vue purement abondance géologique. Il y a ce qu'on appelle des grands métaux qui peuvent être absolument aussi rares que les terres rares. On trouve des terres rares un peu partout, même dans les pierres à briquet, par exemple. Hein.
Donc, elles sont pas rares.
Voilà, elles sont pas forcément particulièrement rares. Alors, ensuite, il y a pas mal de dénominations en fonction un peu de ce qu'on cherche. On parle de métaux critiques, on parle de... voilà, il y a plusieurs possibilités d'analyse. En fait, c'est pas forcément juste la rareté géologique. La rareté géologique, c'est une chose. Après, il peut y avoir des questions de normes environnementales pour effectivement extraire ces métaux et des minerais et les transformer en métaux. Donc là, ça peut être plus ou moins sale. Donc quand ça se passe en Chine et que c'est sur les terres rares, justement, bah, c'est pas forcément très propre. Quand ça se passe sur les mines d'or non plus. Et puis après, il y a la question de qu'est-ce qu'on va en faire. À quel point c'est critique pour les différentes industries, et si la chaîne d'approvisionnement à un moment donné se met à avoir des problèmes, alors parce qu'il peut y avoir des problèmes géopolitiques ou dans des zones de conflit, par exemple le cobalt en République démocratique du Congo, ou parce qu'il y a eu une incroyable croissance de la demande, je sais pas, l'indium par exemple, il y a eu beaucoup de développement parce que c'était des écrans plats, alors avec la Coupe du Monde de 98, je crois, tout le monde s'est équipé en écrans plats et la consommation de l'indium a commencé à exploser, ben, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement ou des difficultés ou des effets d'offres et de demandes qui fait que ça bouge les prix assez vite. Et donc les industriels aiment pas ça, et donc voilà, il y a une question de criticité. On parle de criticité, mais ça a pas forcément de...
Il y a un problème de rareté sur ces métaux,
voilà, ou... Il y a pas forcément de rapport avec les questions
par rapport
de rareté.
À l'exploitation, voilà.
Il y a pas forcément de question par rapport à la rareté à long terme. Il peut y en avoir, mais pas forcément. C'est-à-dire, je sais pas, le platine, par exemple, qu'on utilise dans les pots catalytiques, ou un peu dans l'électronique, dans l'industrie chimique, etc., comme catalyseur. Bah, il y en a que, enfin, d'un point de vue géologique, il y en a quasiment que en Afrique du Sud ou en Russie. Bon, donc voilà, du coup, le platine, théoriquement, peut poser des questions d'accès à la ressource d'un point de vue géopolitique. Mais il n'y a pas forcément de gros problèmes de réserve à court terme, parce que si je divise les réserves connues par le nombre d'années de production, bah, je trouve plus de 100 ans, ou 150 ans, donc voilà.
Pourquoi c'est un sujet important, du coup?
Alors c'est un sujet important parce que, en fait, peu importe, je dirais, la question de la visibilité de la ressource à court terme. Quand je dis court terme, ça peut être sur l'espace d'une génération, par exemple, parce qu'en fait, le calcul est un mauvais calcul. C'est-à-dire que on dit, par exemple, on trouve des horreurs sur Internet avec on va tomber en panne de, je sais pas, de zinc, de cuivre, d'indium ou d'autres choses dans 10, 20, 30, 40, 50 ans.
Des horreurs dans le sens où c'est
des horreurs faux. Dans le sens où c'est effectivement faux, parce que ça marche pas comme ça. C'est comme, je sais pas, les réserves de pétrole ou de gaz. C'est pas en 2083, il va plus y avoir de gaz, et tout d'un coup au milieu de ma douche ça va s'arrêter et elle va passer de chaude à froide. Pour le pétrole, on a commencé à populariser un peu la notion justement de pic de production, de plateau de production. Donc il y a tout un effet à la fois de recherche, de technologie, de nouvelles découvertes ou pas, et puis en même temps il y a tout un effet sur la demande. Donc diviser comme ça des réserves statistiques par une consommation annuelle, ça marche pas du tout. Ça marche pas parce que on trouve des nouvelles choses, les technologies évoluent effectivement, il y a une innovation incroyable. On a commencé, par exemple, cette année à aspirer les fonds marins au large de la Papouasie. Bon, je dis pas que c'est bien, mais le fait est que ça se passe. Et puis il y a aussi donc la question de la consommation, c'est-à-dire qu'on peut plus ou moins consommer. Évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt de la croissance, mais on peut aussi faire de la substitution. remplacer un métal par un autre, dans un certain nombre de technologies, et puis on peut aussi faire du recyclage ou pas. Et donc tous ces paramètres-là, ils bougent à la hausse ou à la baisse, et donc bien malin qui peut dire si on a un problème...
Donc tu dis qu'il n'y a pas de risque de pénurie, le problème il est ailleurs.
Non, c'est pas ça. Je dis qu'il y a, c'est pas un risque de pénurie, je dis qu'il y aura pénurie. Inéluctablement, il y aura pénurie à un moment ou à un autre, parce que on tape effectivement dans un stock quelque part fini, très grand peut-être, mais fini, et qui en plus malheureusement dépend de la disponibilité énergétique, parce qu'en gros mon stock est d'autant plus gros que je peux aller le chercher plus profondément ou dans des ressources qui contiennent des minerais qui contiennent moins de métal. Donc si je décide un jour, je sais pas, au troisième millénaire d'exploiter le cuivre à la consommation de l'or, à la concentration actuelle de l'or, on aura à ce moment-là des quantités de cuivre incroyables, sauf que ça demandera de l'énergie pour extraire un kilo de cuivre que demande un kilo d'or, c'est-à-dire beaucoup.
Donc notamment sur les métaux, si je comprends bien, il n'y a pas le problème qui risque de se poser à terme, c'est l'énergie disponible pour les extraire.
Voilà, il est plutôt, pour moi, le problème, il est énergético-géologique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des questions éventuellement de rareté ou de mauvaise répartition sur la croûte terrestre de tel ou tel métal, donc on peut trouver plus ou moins de choses à plus ou moins d'endroits, certes. Il y a des processus de formation au cours des dizaines de millions, des centaines de millions d'années, sont relativement bien connus pour tous ces métaux. Donc à un moment ou un autre on aura un problème parce que effectivement il faudra de plus en plus. On a attaqué par définition nos ancêtres et nous aujourd'hui les ressources les plus concentrées parce qu'on n'est quand même pas stupide. Quand on donne un coup de pioche ou un coup de pelle mécanique, c'est pour en retirer le maximum si possible. Donc on va pas aller creuser dans la terre du jardin de ma grand-mère. Mais il y a un moment ou un autre où voilà, on arrivera à une courbe d'épuisement. La question c'est quand, à quel moment. Et la mauvaise nouvelle c'est que l'échéance potentiellement peut se rapprocher parce que la non disponibilité d'une énergie abondante fossile. Alors non disponibilité soit parce que on passe effectivement un pic de pétrole ou autre. Soit parce qu'on peut pas se permettre d'extraire ce pétrole ou ce gaz pour des raisons climatiques ou des raisons climatiques aussi. On sait qu'il faut pas essayer de pas trop faire joujou avec les hydrates de méthane, les pétroles non conventionnels et autres. Et bien du coup, on essaye de passer à des sources plutôt renouvelables. Donc qui effectivement sont disponibles presque à l'infini, il y a l'énergie du soleil et donc le dérivé de l'énergie du soleil que sont le vent, les marées, que sais-je. Mais malheureusement, les convertisseurs, ce qu'il faut pour capter, pour convertir, pour stocker, pour utiliser cette énergie, ben là c'est les métaux. Et donc justement, ceux-là, ils sont pas disponibles à l'infini. Et donc on est dans un espèce de cercle vicieux, au point de vue, qui est qu'on a, si on avait tout ce qu'on voulait comme métaux et un problème d'énergie et de climat, ben on passerait à la troisième révolution industrielle, on tartinerait de panneaux solaires, d'éoliennes, d'hydroliennes et autres énergies des vagues, et tout irait bien. On va dire ça, évidemment, il faut faire quand même attention parce qu'il y a toujours des conséquences éventuellement sur la biodiversité, mais bon, d'un certain point de vue, on n'aurait pas de question de ressources. Mais on n'a pas une énergie infinie, on n'a pas des métaux infinis, et donc on est pris dans un cercle vicieux avec les métaux qui réclament plus d'énergie, l'énergie qui réclame plus de métaux.
Puisque donc ça peut être intéressant d'expliquer ça en fait, c'est-à-dire que cette transition énergétique en fait dont tu parles, ces énergies renouvelables qu'on met en place et qui sont présentées comme une solution notamment pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement, on a besoin de métaux rares pour les mettre en place ou de...
Alors de métaux, ça dépend ce qu'on appelle des métaux rares. On a besoin de métaux, c'est clair, et parce que ces énergies sont par exemple tout simplement intermittentes, c'est-à-dire que il faut installer plus de capacité de production pour avoir la même quantité d'énergie produite, par exemple, ou parce qu'elles sont plus diffuses, moins concentrées. Mais effectivement, l'ensemble des convertisseurs, donc on va dire les éoliennes, par exemple, une éolienne, ça consomme 8 à 10 fois plus de cuivre pour produire un kilowattheure qu'une centrale, je sais pas, à gaz ou à charbon.
Quel est le problème du coup s'il n'y a pas vraiment de problème de ressources à court terme?
Si, il faut quand même aller chercher ce cuivre. Oui, d'accord. Alors la question, c'est qu'effectivement, on peut dire j'exclus pas qu'on ait suffisamment de ressources pour installer
des panneaux solaires.
Des panneaux, je sais pas, beaucoup de panneaux solaires ou d'éoliennes pour sur l'espace d'une génération. Et après, au bout d'une génération, ils marchent plus, hein, et donc faut recommencer. Donc on va en recycler une partie, mais tout est pas recyclable à l'infini. Il y a des choses qui sont mélangées, il y a des choses qui sont mises en sous-marin, des câbles de cuivre pour ramener les éoliennes offshore, etc.
Mais ça laisse pas suffisamment de temps justement pour innover.
On peut innover, mais après il faudra bien toujours avoir des convertisseurs. Donc à part le convertisseur de base renouvelable totalement qu'on appelle la feuille avec la photosynthèse en gros, qui a pas un rendement surfacique génial, compte faire toute la question des agrocarburants, et ben non, à un moment il faut effectivement des métaux. Donc à terme on aura un gros problème. La question c'est quel est le terme. Alors selon les hypothèses de déploiement minier ou industriel, les gens tapent plus ou moins fort sur les scénarios de déploiement des énergies renouvelables. Il y a aussi chaque technologie est plus ou moins consommatrice de certaines matières premières. Donc effectivement, il peut y avoir des éoliennes sans terre rare, mais dès qu'on rentre sur des puissances très élevées et qu'on veut éviter la boîte de vitesse, il faut mettre des aimants permanents et donc on a une capacité magnétique au poids forte. Donc on tombe sur les terres rares. Il y a effectivement des panneaux solaires, certains qui sont multicouches avec des hauts rendements et qui eux contiennent un peu des poudres de perlimpinpin bizarres. Et puis d'autres qui sont plutôt basiques au silicium, mais même un panneau solaire, il faut quand même des contacteurs qui sont en argent, il faut...
Et ça se recycle pas, tout?
Ben en fait, si, pour partie, bien sûr, ça se recycle, mais c'est toujours pour partie. C'est-à-dire, on peut pas monter à 100% de taux de recyclage, parce que la nature est ainsi faite que, voilà, si je mets... si je mets une boîte de conserve dans un four électrique, rien ne se perd, rien ne se crée, mais j'ai des choses qui partent dans les effluents liquides ou gazeux ou autres. Enfin, on peut pas récupérer à 100%. Et plus je fais des objets complexes, donc ce qui est le cas malheureusement de tout ce qui est électronique, et y compris électronique de puissance justement pour redresser ou onduler les courants, etc., passer de courant continu à courant alternatif ou autre. Et en fait, tous ces objets électroniques sont composés de dizaines de métaux différents, dans des composants qui sont souvent d'ailleurs le plus possible miniaturisés, etc., parce que je veux de la portabilité, parce que je veux plein de performances. C'est souvent les métaux rares d'ailleurs, c'est souvent parce qu'on recherche une certaine performance qu'on y fait appel. J'ai un petit condensateur par exemple dans lequel on a du tantale. On met du tantale parce que on veut que le condensateur soit tout petit, donc c'est des petits cylindres qu'on trouve sur les cartes électroniques quand on fait tomber son téléphone par terre. Et on peut faire des condensateurs à l'aluminium, sauf que c'est un peu plus gros et que le portable ferait la taille d'une brique, quoi. Voilà. Donc donc à chaque fois qu'on va aller faire appel à des hautes technologies, on va s'éloigner des capacités réelles à recycler, à faire de l'économie circulaire.
Donc cette vision du futur là, parce que quand on pense à futur aujourd'hui, on pense inévitablement à tout ce qui est mis en avant justement par cette communauté tech et à toutes ces innovations incroyables justement qui arrivent sur le marché chaque année. Là, je regardais la dernière conférence Google à base d'intelligence artificielle et etc. Donc avec une vision qui est que chaque objet sera connecté à Internet, en réseau, qu'on aura des voitures électriques autonomes partout, des bitcoins, des crypto-monnaies qui remplaceront le cash. Ça t'évoque quoi en fait cette vision du futur, et le fait que qu'on semble justement accélérer dans cette direction, c'est quelque chose qui te paraît plausible ou qui te fait monter au plafond?
En fait, j'y mettrai deux questions. Alors, la première, c'est de dire qu'il y a quand même il y a une logique un peu de comme disait Lewis Mumford, la machine est devenue notre nouveau messie. Il y a une religion de la technologie quelque part, qui a peut-être d'ailleurs remplacé d'autres réflexions. Mais quand on regarde ce qui se passe depuis Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, qui a été un peu le premier à théoriser le bonheur par le progrès technologique, on va dire, enfin, ou le fait en tout cas de soulager les maux de l'humanité, il était peut-être moins ambitieux que ce qu'il y a eu après, mais voilà, ça fait 3 siècles ou 4 siècles qu'on nous promet qu'il y aura plus de faim dans le monde grâce à la chimie. Aujourd'hui, on nous raconte la même chose avec les OGM, le transhumanisme, on en parle depuis Frankenstein, donc c'est 1818, Marie Shelley, et enfin tu exhumes des textes qui ont 150 ans.
Sauf que là, t'as l'impression la même que chose.
Sauf qu'effectivement, peut-être pour partie, ça se concrétise avec cette logique de la loi de Moore et de l'exponentielle, mais sur laquelle on peut revenir. Et puis, il y a une Deuxième question qui est plutôt, enfin que je mettrais plus effectivement autour de la question du service numérique. Alors effectivement, le Bitcoin peut être un bon exemple où effectivement il y a cette petite musique d'un monde dématérialisé post-industriel. Et malheureusement, voilà, on vit pas dans un monde dématérialisé. La société n'a jamais été aussi matérielle. On vit pas dans une société post-industrielle. On vit dans une société hyper-industrielle. Simplement, voilà, il se trouve que peut-être les gens qui écrivent des articles sur la société post-industrielle et les économistes
sont pas en Chine,
sont pas dans les campagnes chinoises, donc ils voient pas qu'effectivement il se passe quelque chose. Donc, mais en fait, on a fait la même chose qu'au 19e siècle avec l'électricité et Edison, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, la ménagère avec sa lampe à pétrole, elle est obligée de faire la poussière et la suie dans son appartement tous les deux jours, sinon c'est vraiment très encrassé. Et puis à un moment, elle met une ampoule électrique. Il n'y a plus besoin de faire le ménage aussi souvent, et on a déporté la pollution à l'extérieur de la ville avec une usine électrique qui consomme du charbon. Mais elle émet toujours autant de suie, etc. Mais quelque part, j'ai déporté. Bon, on a fait la même chose avec le numérique ou avec les phénomènes de délocalisation, notamment avec la Chine, mais pas que. Et donc voilà, on a cette impression de dématérialisation, mais qui est complètement fausse. Et donc on a aujourd'hui un internet, un système numérique mondial qui consomme de l'ordre de 10% de l'électricité mondiale, pas d'énergie, mais d'électricité, ce qui fait déjà quand même beaucoup. Il y a toute cette consommation de ressources, qui sont récupérées très mal. La plupart les métaux emblématiques des hautes technologies et du numérique sont recyclés à moins de 1%, enfin 0% en pratique. Le gallium, l'indium, le germanium, les terres rares, voilà. C'est pas parce qu'on veut pas faire, c'est pas bien, c'est parce que justement il y a ce phénomène de dispersion dans plein de petits objets qui sont très durs à récupérer, très durs à recycler. Et puis du coup on a en plus en fin de chaîne, voilà, les déchets, etc. Alors du coup, face à ça, on a à la fois des promesses incroyables avec, vous allez voir, la smart city, vous allez voir le covoiturage, vous allez voir l'optimisation des services avec les compteurs intelligents et la maison, la domotique et je sais pas quoi. Et puis de l'autre, on a effectivement cette explosion attendue, enfin réelle, actuelle, mais censée encore se prolonger avec les dizaines de milliards d'objets connectés qu'on nous promet là, et qui effectivement vont provoquer des besoins effrayants en termes d'énergie dans les data centers, en termes de traitement, etc. Et tout ça pour, à la fin, on sait bien. Disons que j'en prends le pari bien volontiers que malheureusement 95% ou 80, pour pas dire 99% de tous ces formidables services, parce qu'il faut que ça soit à un moment converti en économique sonnant et trébuchant, enfin, ça sera des offres de marketing furieusement géolocalisées, personnalisées, et ça sera pas pour sauver la planète en mettant on voit bien passer quelques articles avec des vieux smartphones pour sauver les arbres de la forêt équatoriale, mais bon, franchement, une fois qu'on est sorti de ça, on reste un peu dans la tarte à la crème. Donc voilà, on est sur un truc qui est dingue, parce que il y a des progrès indéniables et réels dans le numérique, hein, des progrès, disons, technologiques ou au sens large, c'est-à-dire sur l'architecture des data centers, sur les logiciels, on peut faire de l'éco-conception, etc. Donc il y a indéniablement des gains réels. Si je prends la consommation d'énergie ou de ressources par octet stocké ou par octet échangé, par octet calculé,
y en a
mais
plus,
ça explose, voilà, l'effet rebond est monstrueux. Donc, alors je sais pas, tu dois connaître mieux les chiffres que moi, mais les chiffres les plus fiables, si je puis dire, que j'ai trouvé, c'était grosso modo que le cloud, on en était à peu près à 8 zeta-octets. Bon, alors ça varie un peu, des fois c'est 6, des fois c'est 9, bon. Mais on va dire, pour faire simple, aller 1000 gigaoctets sur le cloud par terrien, quoi. Bon, voilà, et ce truc-là est censé, en gros, double tous les 18 mois, quoi, à peu de choses près. Donc,
La consommation électrique d'un film en streaming, c'est l'équivalent de la consommation d'un frigo sur une année, je crois, un truc comme ça.
Ouais, alors après, voilà,
sur
ces chiffres-là, c'est compliqué, parce que il y a la tasse de thé avec Google, voilà, et tout. C'est très dur, en fait, de réussir à reconnecter un geste unitaire sur Internet, c'est-à-dire combien vaut un tweet en milligrammes de CO2.
L'idée, c'est qu'en tout cas,
ça explose, c'est clair. Et quand Facebook est passé à la vidéo, ça a fait bien monter le trafic mondial, ouais.
Pour revenir sur le sujet des terres rares, est-ce que la notion de géopolitique autour des terres rares te dit quelque chose? Sachant que moi, j'ai en tête que l'essentiel de ce qui est extrait aujourd'hui est produit en Chine. Et que, je sais plus où j'ai vu ça, mais qu'en gros, de plus en plus, on considérait que là où le pétrole a dicté un peu les schémas géopolitiques du XXe siècle, on en voit arriver la même problématique sur les terres rares, mais avec une concentration encore plus importante des ressources sur un seul territoire. Je sais pas si t'es familier avec cette question-là.
Ouais, t'as lu ça chez Guillaume Pitron, la guerre des pétroles, sans doute, qui rencontre un beau succès éditorial, fort mérité. Mais en fait, alors moi, pas tout à fait. Bien sûr, je partage la même dénonciation de la croissance verte, c'est-à-dire avec des très belles expressions sur le mode « il y a ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres ». Enfin, je rejoins totalement cette question-là et les horreurs environnementales et sociales que provoque l'extraction d'un certain nombre de métaux dans les terres rares en Chine. C'est pas les seuls, il y en a d'autres, il y a le tungstène, il y a quelques trucs comme ça. Mais en fait, par contre, j'ai plus de mal à accrocher, d'une part, sur la question de la dépendance géopolitique et de cet asservissement quelque part à cette nouvelle puissance du troisième millénaire qu'est la Chine. Et surtout, j'ai du mal à accrocher sur le fait que du coup, il faut faire de la relance minière parce que chez nous, les mines made in France sont bien plus propres. Et puis du coup, on n'aura pas cette dépendance à la Chine. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, notre dépendance à la Chine, elle n'est pas juste sur les terres rares.
Oui, elle est sur l'industrie.
Sur l'industrie électronique, sur l'industrie optique, sur l'industrie chimique, sur l'industrie, enfin, énormément d'industries. Et c'est pas anodin que d'ailleurs, Guillaume Pitron, dans son ouvrage, à un moment, pour montrer comment on se laisse déposséder un certain nombre de choses, prend des exemples aéronautiques, parce que l'aéronautique est un des rares endroits où on n'a pas encore complètement désindustrialisé. Donc du coup, c'est vrai que le fait de voir partir comme ça des morceaux de missiles, si je puis dire, lui fait un peu froid dans le dos. Mais pour moi, en fait, voilà, la dépense, elle est surtout de la chaîne de valeur, et le combat géopolitique qu'il y a pu avoir, qui en fait aurait été un combat économique, une guerre économique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Chinois, à un moment, ont mis des quotas, ou ils ont eu du mal un petit peu à appliquer d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit peu de marché noir, mais sur les terres rares, c'était pas pour dire ah ah méchants aux occidentaux, cette fois nous vous tenons. C'est simplement pour monter dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire on dit au lieu de vous vendre des terres rares, on va vous vendre des aimants. Puis après, ils ont dit, bah, au lieu de vous vendre des aimants, on va vous vendre carrément des moteurs. Puis au lieu de vous vendre des moteurs, on va vous vendre des voitures électriques. Voilà, c'est une planification économique bien plus efficace, sans doute, que ce que sont capables de faire les États-Unis ou les pays européens. Mais c'est juste monter dans la chaîne de valeur industrielle. Et donc, de toute manière, je sais pas, bon, prenons les 40... Alors déjà, la relance minière chez nous ne nous sauverait pas de tous nos problèmes de dépendance, parce qu'il y a quand même, bon voilà, le platine, le cobalt, des trucs comme ça, on les trouve pas sur le territoire français, même en prenant l'outre-mer, donc ça sera, enfin on le trouve pas économiquement, en tout cas ça sera difficile. Donc on s'affranchira pas de toutes les dépendances minières et géopolitiques. Et puis si la Chine décide d'arrêter de nous envoyer des smartphones, on va tous se mettre à pleurer très fort, sans doute, enfin, sauf moi peut-être, parce que j'arrive encore à en passer, mais c'est juste, jusqu'à ce que Valérie Pécresse me l'installe pour payer mon métro. Pour l'instant, j'arrive encore à mettre un ticket dedans. Donc voilà, ils ont toute la chaîne de valeur. Donc voilà, le problème, il est bien plus large. Enfin, je veux dire, s'ils m'envoient plus un seul écran, donc je ne comprends pas en quoi le fait de maîtriser le bout de la chaîne le plus sale changerait quoi que ce soit. Et puis l'autre question, la question de la mine propre peut faire débat. Oui, peut-être on serait un peu plus propre, mais enfin, une mine n'est jamais propre, soyons clairs. J'aime pas ces arguments de relance minière parce que c'est exploité par des gens qui veulent rouvrir, par exemple, des mines d'or. Et alors là, pour le coup, s'il y a bien un exemple stupide, c'est bien la mine d'or, puisque il y a seulement 10% de l'or extrait de la croûte terrestre chaque année qui est utilisé, enfin même pas, parce que il y a l'or recyclé, mais à peu près 10% de la consommation d'or mondiale est utilisée dans l'industrie, en l'occurrence principalement électronique, et le reste, effectivement, ça sert à faire des lingots dans les banques centrales et autres joyeusetés de ce type-là. Donc il y a aucun intérêt, aucune indépendance à être trouvée à faire tourner la cage à hamster économique en ouvrant des mines d'or. Et puis le dernier point, c'est le fait que qu'est-ce qu'on veut tous faire, y compris Guillaume, c'est on veut augmenter les taux de recyclage. On veut recycler, c'est-à-dire que ce taux de 0% ou de 1% passe à 99%. Alors certes, George Scorogan nous a expliqué avec ses amis du 19e siècle et la thermodynamique qu'on monterait pas à 100%, mais bon Dieu, entre 1% de taux de recyclage et 99%, on divise juste par 99 la consommation annuelle d'un métal, par exemple. Donc je veux dire, c'est loin d'être négligeable. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas ? C'est évidemment des problématiques technique, éventuellement technologique. Donc effectivement, plus je fais des objets compliqués à démanteler, etc., plus c'est difficile, mais c'est aussi et d'abord économique. C'est-à-dire que pourquoi on recycle pas? Parce que c'est moins cher de prendre un métal de première monte que tout ce qu'il faut injecter comme à la fois comme énergie, comme main d'œuvre pour voilà enlever l'écran, enlever la batterie, prendre une pince à épiler pour voilà, avant de passer tout ça au broyeur et au four métallurgique. Et donc pour faire monter le recyclage, il faut se contraindre. Il faut à un moment être obligé voilà de faire monter le prix. Il faut faire monter le prix des ressources, sinon on n'arrivera pas. Alors artificiellement ou pas, alors il y a plein de manières de faire monter le prix, effectivement. Bon, il y a des taxes, effectivement, il peut y avoir des contraintes sur qu'on met sur la demande ou sur l'offre. Mais voilà, il faut être prêt à ça. Et je pense que bon, dans l'exemple du smartphone, dans un smartphone, il y a moins de 2 € de matières premières. Tout métaux confondus, y compris métaux précieux, principalement de l'or d'ailleurs, pour la moitié, c'est les quelques dizaines de milligrammes d'or dans le microprocesseur et certains contacteurs, et puis le reste, c'est quelques terres rares, un peu d'argent, de palladium, voilà, moins de 2 €. Alors, après, on se plaint des conditions environnementales effroyables à l'autre bout, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre plutôt 20 € que 2 €, je sais pas, dans ces matières premières? Parce que le reste étant, en gros, bon, bah, du design, du marketing, du manufacturing, etc.
Dans le livre que je viens de finir, donc justement, la Gélothèque, tu parles de tout ça et tu parles de la finitude des choses, de la limite qu'il y a et de recyclage, justement, dans le fait qu'on, à force de produire des choses de plus en plus complexes, on a de plus en plus de mal à travailler ce recyclage et il y a de plus en plus de pertes. Donc d'un côté on épuise les ressources, de l'autre on fait des choses de plus en plus complexes qu'on a du mal à recycler. Et tu parles justement de décroissance un peu comme solution et de low-tech. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les low-tech et pourquoi tu arrives à ces conclusions?
Alors juste une remarque, c'est qu'en fait c'est pas juste qu'on se met à fabriquer des objets de plus en plus complexes, c'est vrai, mais c'est aussi qu'il y a un effet multiplicateur par le fait qu'on remplace du travail humain par des machines. Quand on fait de l'intelligence artificielle, des logiciels, quand on met des bornes de distribution d'énergie, on consomme des ressources et de l'énergie. Là où avant on avait mis des humains, voilà. Donc après on peut débattre et discuter en disant que ces humains ils consommaient de l'énergie en venant sur leur lieu de travail et autres. On peut rentrer dans plein de débats comme ça, mais le fait est que voilà, aujourd'hui on a des indicateurs économiques et un système fiscal qui taxe, on met le coût de la sécurité sociale, des retraites, du chômage sur le travail humain et pas sur la machine, pas sur l'énergie et les ressources. Et donc, ça incite tout le monde, avec la meilleure bonne foi possible dans les entreprises, les administrations et chez les consommateurs, à consommer de la machine plutôt que de l'humain. Et ça, c'est des choses c'est des paramètres qu'on pourrait décider, qu'on peut même décider au niveau d'un pays, puisque c'est une question de politique fiscale.
J'ai l'impression que tout ça fait que ça s'accélère, en fait, qu'on gaspille de plus en plus.
Les courbes le montrent. Enfin, on est plutôt dans des exponentielles aujourd'hui.
Et ta réponse à ça, c'est...
Alors, les low-tech, j'ai coutume de résumer un peu en 3 questions. Il y a la question de pourquoi je produis. C'est-à-dire qu'effectivement, de se dire, le meilleur service, le meilleur produit, le truc le plus facile à recycler, c'est celui que j'ai pas fabriqué. Donc, c'est la question de la sobriété.
Donc, low-tech comme basse technologie. Hein,
voilà. Alors, c'est un peu, par pied, il y a plein de définitions qui traînent. On pourrait aller chercher quelques références chez Illich, chez les outils conviviaux, chez Schumacher et les technologies, les intermediate technologies en France, qui avaient été traduites en français par technologie appropriée. Donc, c'est effectivement d'abord se poser la question de la sobriété. Donc, je suis pas contre un programme d'énergie renouvelable pour décarboner l'énergie, mais à condition que ça soit fait après ou en même temps qu'un programme de sobriété. Et de la sobriété, on peut faire partout. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il faut faire des voitures électriques qui font 1,5 tonne, ou est-ce qu'il faut faire des pots de yaourt qui font 400 kilos? C'est des questions comme ça. Ah, est-ce qu'il faut
Il sait qu'il y a énormément de gaspillage en fait sur des choses qui sont pas forcément.
On tourne aussi là dans le mélange un peu entre sobriété, efficacité, et puis la question de l'effet rebond. C'est-à-dire que on sait que
qu'est-ce que t'appelles l'effet rebond?
L'effet rebond, ça veut dire par exemple, je prends une voiture qui consomme moins
de litres d'essence
ou la voiture électrique
au 100 km ou une voiture électrique éventuellement qui consommerait elle aussi moins et comme ça me coûte moins cher je fais plus de kilomètres, je pars plus loin en vacances, je vais plus souvent manger chez mes beaux-parents, j'en sais rien.
Ça change rien ou...
Et donc du coup à la fin effectivement aux bornes de la Société France on consomme toujours autant de litres d'essence, il suffit d'aller voir les statistiques de l'industrie sur le sujet. Dans un logement, bah ça pourrait être j'isole mieux mon logement. Tout le monde veut isoler mon logement, mais peut-être je vais monter la température de consigne, ou alors peut-être je vais habiter un logement plus grand. Enfin, il y a plein de possibilités. En fait, on s'aperçoit qu'en fait les progrès technologiques, qui sont des progrès d'efficacité, sont assez rarement accompagné par une réelle sobriété qui fait que du coup une partie de l'efficacité, alors après ça peut même être négatif quasiment, ça c'est le fameux effet rebond de Jevons sur le charbon au 19e siècle et les machines à vapeur, c'est que ça peut même être, si je fais même une efficacité trop grande, je peux même créer un effet rebond là positif, enfin consommer plus qu'avant parce que effectivement l'accès à ce service du coup est devenu bien plus efficace et donc bien moins cher.
Si je trouve une énergie
infinie
je continue d'exploiter toutes les ressources encore plus profondes.
Je vais y aller absolument. Donc voilà, donc faire de la réelle sobriété, bah c'est effectivement décroître en valeur absolue la consommation d'énergie, de ressources, de plein de choses, et ça veut dire sans doute du coup habiter des logements plus petits peut-être ça devient plus supportable si on a débarrassé aussi les rues des voitures, etc., etc. Donc il y a une foultitude de possibilités. Alors ça, et puis la manière de le faire, bah ça peut être absolument liberticide ou ça peut être démocratique et collaboratif. J'en sais rien. Ça c'est pas mon métier. Moi je suis juste ingénieur et je dis que techniquement, si on va pas vers ça, on n'ira pas vers une société qui soit réellement soutenable parce qu'on sera ultra dépendant des ressources qui vont nous poser un problème. Et d'ailleurs, le fait qu'on descende de plus en plus profond dans des mégamines, les mines du futur, c'est des mégamines robotisées, parce que au bout de, quand j'exploite à 1000 mètres de profondeur, il fait pas la même température qu'à 300 mètres, comme se souviendront tous les descendants des mineurs ch'tis et autres, du coup, il faut mettre des machines, des robots, des trucs, etc. Et donc, il faut en plus que la quantité qui est extraite grossisse plutôt qu'elle baisse. C'est-à-dire qu'on sait même pas si on peut faire des mines du futur de plus en plus petites, parce qu'en fait, il faudra aller chercher quand même de plus en plus profond. Donc, c'est assez horrible. Bon voilà, ça c'est le pourquoi je produis. Après il y a le comment, qu'est-ce que je produis. Donc là on est plutôt sur la question de l'éco-conception, c'est-à-dire effectivement une fois que j'ai décidé que je me passerai pas, je sais pas, de la machine à laver par exemple, on peut aussi aller battre son linge au lavoir, j'en sais rien, mais on va peut-être pas commencer par ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour
consommer
faire en sorte
moins
de,
d'énergie
et
de ressources,
voilà, moins de ressources, et notamment moins de ressources, et comment je peux optimiser le la réparabilité, la modularité, le fait que voilà on puisse faire du remanufacturing et pas tout jeter, et puis en fin de vie effectivement quand il faut aller jeter, comment je démantèle le mieux possible et comment je fais en sorte que mes produits soient gâchent le moins possible. Et donc il y a des questions autour de, il faut peut-être mieux faire dans un certain nombre de cas du monomatériau plutôt que des matériaux composites où je récupérerai pas les trucs, il faut pas forcément miniaturiser tout autant que ça parce qu'il faut privilégier la capacité à démonter, il faut peut-être revoir des questions de performance, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a dans nos smartphones, je suis pas certain.
Ce qui est intéressant, Anthony, c'est que tu cites énormément d'exemples, en fait, très concrets, sur lesquels ça coûterait pas finalement très très cher ou beaucoup d'efforts de changer les comportements. Je sais pas, tu fais des consignes.
Oui, alors voilà, j'aime bien mon exemple de la bouteille. Effectivement, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on consigne plus? Parce que bon voilà, c'est compliqué d'assurer la logistique retour, mais c'est aussi parce que même si quand on fait des calculs pour réembouteiller, je sais pas, une bouteille de Perrier à Vergèze, à côté de Nîmes, si elle a été consommée à Strasbourg, le fait de descendre la bouteille vide jusque là-bas, ça vaut pas le coup d'un point de vue environnemental. Faut mieux casser la bouteille pas loin. Et puis, voilà. Alors que si on faisait par exemple des bouteilles un peu de format universel et qu'on imagine que tout le marketing et la différenciation produit passe par l'étiquette, par exemple, et non pas par la forme de la bouteille. Alors ça paraît un peu rocambolesque comme ça, mais il me semble que dans le vin, par exemple, il n'y a pas de difficulté à faire du marketing à travers juste une étiquette et pas à travers la forme de la bouteille.
Ce qui est déjà fait pour
voilà,
en partie. Mais...
On peut faire. Ben là, on peut imaginer d'avoir, je sais pas, une espèce de bouteille universelle. Il y aurait une bouteille d'un litre, une bouteille de 50 centilitres, une bouteille de 20 centilitres, je sais pas. Et puis elle serait, il y aurait du vin dedans, elle serait consommée, elle serait embouteillée en bière ou en lait ou en huile, enfin au plus proche. Et on peut tout à fait imaginer comme ça des choses assez rigolotes. Bon, je sais pas. C'est plutôt des idées que j'ai lancées comme ça pour donner envie à des gens de creuser. Mais effectivement,
il y a toute une question autour de l'innovation, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on en revient à la question des utopies technologiques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mise tout sur l'innovation, plutôt l'innovation techno aujourd'hui. Donc c'est on va trouver la super batterie qui fait ci et ça, on va trouver les bon. Et en fait non, il y a une foultitude d'autres types d'innovations qui sont des innovations sociales, sociétales, organisationnelles, sur la manière de faire les choses. Donc voilà, la consigne c'est un exemple de ça, c'est presque une innovation systémique. Et qui a rien à voir avec de l'innovation technologique et qui pourtant pourrait être très intéressante. Et donc voilà, les low tech c'est un appel à ça, c'est un appel à dire attention, il n'y a pas que l'innovation techno. Et si on espère tout miser sur l'innovation technologique, bah c'est la voiture de James Dean devant la falaise et promis, on va inventer les ailes, quoi. Voilà.
Ouais, d'accord. On aimerait qu'on parle un peu justement des freins au changement, pourquoi ça se fait pas encore ou pourquoi pas assez vite. Un des freins qui est souvent cité, c'est l'emploi, en fait. De dire qu'il faut préserver l'activité économique, justement, pour espérer lutter contre le chômage mieux qu'on le fait aujourd'hui. Et qu'en gros, si on arrête la course à la croissance, qu'est-ce qui se passe, justement, pour nos emplois? Et on sent d'ailleurs dans les débats politiques que c'est vraiment souvent sur cette question qu'on revient. C'est-à-dire que, quand on parle du nucléaire, notamment, on avait entendu ça, et oui, ça serait bien de démanteler, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont rester sur le carreau et de toute la filière, etc. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que c'est un vrai argument, selon toi, ou...
Bah, en fait, c'est un argument avec lequel il faut faire, parce que c'est tellement ancré dans les esprits, la croissance, c'est l'emploi, donc si c'est pas la croissance, alors c'est le chômage, hein, c'est le corollaire. Donc, bon, évidemment, tout ça est complètement faux, malheureusement, parce que ça a peut-être été vrai dans les quelques courbes des économistes des Trente Glorieuses, mais aujourd'hui, voilà, on voit que il y a quand même d'abord la croissance, on ne sait pas bien ce qu'on y compte, et puis voilà, quand le prix de l'immobilier augmente, le PIB des transactions immobilières monte, mais on n'a pas forcément créé beaucoup de richesses, donc qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et puis il y a le fait qu'aujourd'hui on est dans une croissance, l'innovation à la destruction créatrice à la Schumpeter, et puis la théorie du déversement à la Alfred Sauvy commence un petit peu à avoir un coup dans l'aile, c'est-à-dire que oui, on voit bien qu'il y a de la destruction d'emplois qui arrive, alors peut-être pas à la hauteur de certains rapports alarmants, mais bon, voilà, il y a quand même une nouvelle vague de robotisation, de drones, d'intelligence artificielle et autres. Le fait est qu'effectivement, voilà, les agences bancaires ferment et qu'on ouvre les banques, des comptes sur les banques en ligne. Donc il y a quand même de la destruction d'emplois. Et bon, j'ai quand même du mal à croire qu'on va tous devenir data miner, concepteur de je sais pas quoi de robots et autres. Et puis voilà, les corrélations, on va dire, l'Allemagne est super robotisée et il y a pas beaucoup de chômage. Enfin, c'est d'un niveau tellement bas que j'ai même pas envie de contrer l'argument. Enfin, parce que évidemment, corrélation ne fait pas causalité. On sait quand même depuis assez longtemps, 2500 ans à peu près. Mais du coup, pour moi, la croissance, déjà, elle doit pas revenir. Enfin, en tout cas, pas avec des taux comme on les espérerait pour résorber le chômage.
Parce que c'est plus de...
Parce qu'on n'arrive pas à décorréler, voilà. On n'arrive pas à faire une pure décorrélation, un découplage entre la croissance de PIB et puis la consommation d'énergie et de ressources et la production déchets, etc. On fait une décorrélation, un découplage relatif, mais donc, une courbe grimpe un peu moins vite que l'autre, mais c'est tout. Donc, la croissance, c'est pas bon pour la planète, on le sait, et on aura du mal à prouver le contraire, à moins de s'appeler éventuellement le Danemark dans des cas précis avec la grosse Allemagne derrière, mais sinon c'est difficile. Et du coup, ou de faire du faux PIB, un peu à la chinoise, pour partie. Et donc, du coup, voilà, on a ce problème-là, la croissance n'est pas souhaitable. De toute façon, quand elle revient, si elle revient, elle revient pas forcément sous une forme de création d'emploi, parce qu'on est dans une logique un peu différente maintenant, avec effectivement de la destruction technologique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je crois pas que les low-tech ou la décroissance soient forcément destructrices d'emplois. Je pense d'abord qu'il y a évidemment forcément de la destruction d'emplois, comme toujours, mais il y a aussi beaucoup de création d'emplois. Alors ça peut être dans les circuits courts, ça peut être dans l'agriculture, par exemple l'agriculture à petite échelle, puisqu'il faut revenir, enfin, faut arrêter de faire les usines à cochons bretonnes d'un côté et puis la Beauce désert de l'autre. Enfin, il faut refaire des exploitations à taille humaine en polyculture élevage pour refermer le mieux possible les cycles du phosphore, de l'azote, etc. Et donc ça, bah, c'est plus intensif en, à l'hectare, et
donc tu peux voilà, recréer donc des, tu peux recréer des emplois
dans un million d'emplois dans l'agriculture sans aucune difficulté. Enfin, sans aucune difficulté. En tout cas, ça serait possible. D'ailleurs, c'est un endroit où on pourrait le faire sans doute le plus facilement parce qu'on a, on peut flécher les aides agricoles différemment et donner une mission aux SAFER un peu différente de concentrer les terres aujourd'hui. Rendez-vous donc sur des débats autour de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l'usage des terres futures. Mais du coup,
tu dis c'est un faux problème,
l'artisanat, en fait, etc. Et puis après il y a d'autres paramètres qu'on n'ose pas toucher. Alors il y a des paramètres du niveau de mécanisation. C'est clair que la mécanisation historiquement elle a permis de réduire la pénibilité des emplois. Hein, je veux dire,
On pourrait revenir à quelque chose de raisonnable.
Quand je creuse une tranchée, je peux mettre un tractopelle ou 30 personnes. Enfin, donc je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est un paramètre. Enfin, voilà, c'est un paramètre sur lequel on pourrait jouer fiscalement. Et puis, il y a le partage du temps de travail aussi, le partage du temps de travail.
Il y a un autre frein que tu cites dans ton livre, et j'avais noté cette phrase qui, en gros, nous vivons une sorte de dilemme du prisonnier, à toutes les échelles, personnelles, organisationnelles, étatiques. Nous savons qu'il faudrait bouger, mais le premier qui bouge est perdant. Et tu parles du coup de la difficulté de se mettre d'accord, notamment au niveau international, sur de nouvelles règles du jeu. Donc je te cite, on ne se mettra jamais d'accord avec 180 pays, et ce, quel que soit le niveau de dégradation de la planète. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup?
C'est là qu'on rentre dans une autre utopie, mais il faut bien en avoir. Eh ben, il faut essayer de jouer la théorie des dominos, qui plaisait beaucoup à George Bush avant qu'il envahisse l'Irak, donc ça marche pas toujours.
Pas tout à fait la même théorie, j'imagine. Voilà. La même interprétation.
Non, mais c'est en gros, c'est de dire, on n'a pas le temps de tous se mettre d'accord, parce qu'effectivement, pour des raisons historiques diverses et variées, et puis politiques locales.
C'est presque jamais arrivé, de toute façon, ouais.
C'est presque jamais arrivé, alors je m'amuse un peu à faire avec sans doute des horreurs, les historiens trouverait ça un peu fait à la serpe, mais je m'amuse à dire comme ça qu'au 19e siècle, on aurait eu du mal à abolir la traite et l'esclavage aussi rapidement, enfin aussi rapidement ou aussi lentement, mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus tardif s'il avait fallu attendre le Brésil à la fin du 19e siècle. Donc voilà, c'est un exemple d'un truc très compliqué, avec des impacts économiques, c'était pas bien et tout, puis à la fin, il y a quand même quelques pays qui ont dit « bon bah moi j'y vais, hein, de toute façon, faites ce que vous voulez ». Alors certes, ces pays étaient des grandes puissances, hein, c'était le Royaume-Uni par exemple à l'époque. Mais voilà, c'est la preuve qu'on peut aussi y aller de temps en temps un peu en avance de phase par rapport aux autres. Alors à quelle échelle, j'en sais rien. Ça peut être des échelles régionales, des échelles d'un pays ou de quelques pays. C'est une question. Mais se pose très vite effectivement cette question du premier qui bouge qui fait shooter. C'est-à-dire voilà, si je décide, enfin c'est toute la problématique autour de la taxe carbone par exemple. Même si l'Europe décidait de mettre une taxe carbone digne de ce nom, et ben ça pose la question de la compétitivité, je sais pas, de la chimie, de l'industrie, de plein de choses comme ça qui sont énergivores. Et donc ça pose une question affreuse qui est effectivement de se dire, est-ce que un pays ou un groupe de pays peut entrer en transition alors que on peut mettre ce qu'on veut derrière ce mot-là, mais enfin d'une manière ou d'une autre réellement faire de la lutter contre le changement climatique, réduire ses émissions, avoir une organisation du travail différente, et sans que tous les autres le fassent. Et la réponse est peut-être, mais en tout cas pas en attendant tous les autres. Mais à ce moment-là, il faut se protéger, c'est-à-dire se protéger au sens, il faut se dire que peut-être le poulet brésilien trempé dans le chlore. Du coup, on n'appelle pas ça un poulet parce que s'il doit combattre un poulet fermier,
c'est pas vraiment la direction qu'on est en train de prendre, non?
Non, parce que c'est un peu compliqué, parce que derrière ça, il y a des relents un peu nationalistes aussi. C'est-à-dire très vite, cette petite musique-là, on se fait des amis qu'on n'a pas envie de se faire. Mais toute la question, enfin, on voit par exemple dans les débats qu'il y a eu sur le TAFTA, le CETA ou autre, c'est il y a bien un combat qui est pas forcément un combat de barrière douanière, qui est un combat normatif. C'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle effectivement un poulet. C'est concrètement, c'est bien ça. Donc alors on peut le faire, et puis après il se pose d'autres questions plus géopolitiques, c'est-à-dire le petit pays qui s'amuserait à faire ça et démarrerait un peu différemment des autres et puis dirait moi je vous emmerde.
Il y en a qui ont essayé à d'autres époques.
Oui, et puis après on se fait un peu envahir par le copain qui lui a pas fait ça et qui a une puissance de feu du coup plus importante puisqu'il a gardé une super industrie.
Quelques expériences en Amérique du Sud.
Voilà. Ouais. Bon alors on peut le faire quand on est la Suisse parce que peut-être on est le coffre-fort du reste du monde, mais voilà. C'est pas évident, c'est effectivement. Mais alors, il faut essayer de jouer
sur quoi, sur, tu parles de la notion de récit aussi, d'imaginaire en fait sur.
D'imaginaire ou d'enfin disons que on a une tendance bien naturelle parce que c'est normal que le nombre nous fasse peur à chaque négociation climatique ou même finalement on se dit bah oui mais c'est quand même un peu finalement les Chinois et les Indiens qui vont nous planter quoi hein, parce que voilà c'est le nombre faisant si je multiplie le nombre de voitures enfin le taux d'équipement des États-Unis ou de l'Europe et que je fais l'équivalent en Chine ou en Inde on va effectivement avoir une petite difficulté. D'ailleurs, ils savent très bien que le modèle américain ou européen est probablement difficilement généralisable, en tout cas sans exploser les limites de régulation de la planète. Mais en fait, on est voilà. Alors c'est vrai que du coup, si on était que 1 million sur Terre, tout irait bien. On aurait chacun un hélicoptère, j'en sais rien. Mais là, effectivement, à 7-8 milliards, c'est plus compliqué. Mais malheureusement, quelle crédibilité on a dans des négociations climatiques pour leur dire attention, la voiture, c'est vraiment pas bien. Hein, ça pollue vachement. Puis alors, qu'est-ce que ça consomme? La réponse est zéro. On commencera à avoir éventuellement un peu de crédibilité quand on aura réellement lancé un programme de sortie de la civilisation de la voiture et qu'on aura en plus démontré que grâce à ce programme de sortie de la civilisation de la voiture, on a retrouvé le plein emploi avec nos...
Sans compter qu'on a délocalisé notre production industrielle
qui plus est, en plus, il y a l'aspect effectivement des émissions grises, enfin, ou importées dans les produits. Ouais.
Mais donc je reviens à la question, on fait quoi du coup? T'y crois à ce scénario de changement? Comment tu vis ça? Enfin, une question que je pose aussi de temps en temps, c'est tu es en situation de pouvoir? T'es Bill Gates, Macron, patron du CAC 40, tu fais quoi en fait? Parce que ça a l'air, quand on parle, j'ai l'impression que c'est presque...
C'est une bonne question. Est-ce qu'un patron du CAC 40 est en position de pouvoir? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois que si demain matin, le patron d'un
est-ce que le président du CAC 40 est en situation de pouvoir?
Non, mais c'est des vraies questions, en fait, parce que, voilà, à la fin, il y a derrière des actionnaires, etc. Le gars qui aurait une fulgurance, il dirait, ah là, ça y est, je vais décider que l'année prochaine, je vais commencer à faire de la décroissance de chiffre d'affaires, etc. Et je vais rendre tous mes employés plus heureux et sauver la planète. J'ai peur qu'il se fasse débarquer, non?
Donc c'est quoi? C'est au niveau individuel que ça se joue? Comment, où est-ce que tu vois l'action à faire pour construire un futur un peu plus souhaitable que celui que tu décris?
Bah moi je vois, je dis pas qu'il n'y a pas des, enfin qu'un patron du CAC 40 ou j'en sais rien, ou un président de République ne porte pas un certain nombre de responsabilités sur un certain nombre de choses et qu'il n'y a pas des choses à faire, hein, c'est, entendons-nous bien, mais. Je crois qu'en fait, pour réussir à faire quelque chose, il faudrait une magie en mélangeant quatre niveaux d'action. Alors, le premier niveau d'action, c'est le niveau personnel ou familial. Donc c'est en gros, bah voilà, j'ai une révélation, j'ai envie d'agir. Alors ça peut prendre différentes formes. C'est pas forcément facile en fonction du niveau d'ambition par rapport à la famille, les amis, etc. Je sais pas. Alors ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui se lancent dans le zéro déchet, qui font du compostage,
qui font leur part.
Voilà, il y a des gens qui décide d'enfourcher un vélo plutôt que la voiture, même si les assistances électriques je supporte parce que si ça a vraiment remplacé une voiture c'est quand même pas mal. Voilà, il y a plein de choses à faire au niveau personnel, manger moins de viande, il y a quand même des petits gestes mais qui ont un réel effet. Enfin, je veux dire, sans s'amuser forcément à descendre son bilan carbone sur Excel, enfin, je veux dire, en se mettant sans même passer vegan et juste à se dire je mange de la viande 3 fois par semaine au lieu d'en prendre à chaque repas midi et soir. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement impactant. Et puis si on peut se passer aussi de l'huile de palme, même du RALM et des choses comme ça. Bon, mais ça a une limite. Et effectivement, très vite, on tombe un peu dans la contrainte du économique qui fait qu'on est quand même dans une économie poussée et pas dans une économie tirée. C'est-à-dire, c'est pas le client qui est roi. Le client, il choisit juste ce qu'on lui a mis dans le linéaire et il a le droit de choisir entre ce qu'on lui a mis dans le linéaire mais pas autre chose. Voilà. Donc très vite, les courses deviennent un sport de combat. Et donc, voilà, il y a une limite à cette démarche, disons, personnelle et individuelle. Alors, on monte à le cran du dessus, c'est le cran de... On pourrait dire territorial, associatif. Alors ça va être, je sais pas moi, des gens qui ouvrent un hyper café associatif, une municipalité qui s'empare de tel ou tel truc. Ça peut être des AMAP, les circuits courts. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire là aussi, et y compris avec le soutien éventuellement des institutions, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé sur des choses pimpantes et numériques et qui pourraient être mises et créatrices d'emplois sur de l'économie, on va dire, sociale et solidaire pour simplifier. Donc là, il y a plein de trucs à faire aussi. Et puis là aussi, il y a des limites parce qu'après, bah, faut embaucher ou voilà, bon, il y a des contraintes. Alors après, on passe au niveau étatique, celui dont je parlais tout à l'heure. Niveau étatique qui, pour moi, est encore très important. C'est mon côté un peu jacobin. On se rejoint là-dessus avec Emmanuel Macron sur... en toute modestie,
via des réglementations notamment.
Ouais, alors non, mais ça peut être sans rien.
Interdire les sacs plastiques, ce genre de genre d'initiative.
Voilà. Alors c'est, donc il y a l'aspect du pouvoir normatif et réglementaire, effectivement. Donc c'est je peux faire ça, je peux pas faire ça. Je passe à 80 km/h ou je passe pas à 80 km/h. Hein, voilà. Hein, il y a effectivement cette dimension-là. Il y a la dimension fiscale. J'en parlais tout à l'heure sur l'exemple de l'arbitrage entre l'emploi, enfin le travail humain et les machines. Enfin, aujourd'hui, on pourrait, de la même manière qu'il y a eu un transfert de la CSG, des charges sociales sur la CSG, on peut faire un transfert des charges sociales sur des contributions environnementales, pour pas les appeler taxes. Et du coup, concrètement, les gens gagneraient plus en net ou coûteraient moins cher aux entreprises, mais et les plus vertueux, du coup, augmenteraient leur chiffre d'affaires. Mais après, il y a un effet rebond et ils partiraient un week-end spa à Budapest. Donc, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Tout ça est très compliqué, je sais. Mais voilà, donc l'aspect fiscal, l'aspect soutien à l'innovation, indéniablement, je veux dire, on déverse des milliards sur le soutien à l'innovation, la French Tech, etc. On pourrait les déverser, déjà mettre un euro sur de l'innovation low-tech, sociale, organisationnelle, locale, territoriale. Quand on met un euro sur les start-upers et les high-tech, je pense que ça serait déjà un énorme coup de boost. Et puis un autre exemple, l'école numérique sur laquelle je me suis emporté dans un autre ouvrage, ben voilà, c'est on sait qu'on n'apprend pas mieux avec des tablettes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut acheter des millions de tablettes alors qu'il n'y a aucune démonstration de l'intérêt pédagogique? Ben voilà, ça c'est la question du pouvoir d'achat, du pouvoir prescriptif de l'État. C'est-à-dire que voilà, il y a une part extrêmement importante du PIB qui est de la dépense publique, étatique ou collectivité territoriale, et ça, bah, ça pourrait être aussi fléché d'une autre manière, tout en respectant évidemment les questions européennes, appel d'offres, etc. Mais avec voilà des aspects dans les cahiers des charges sur le contenu en travail humain, sur la capacité à réparer, à démanteler, etc. Voilà. Donc ça, c'est le niveau, troisième niveau, ce niveau étatique qui est indéniablement indispensable, mais qui fonctionne aussi d'un point de vue démocratique si les deux autres niveaux ont un peu embrayé et s'il y a une envie de faire. Et puis il y a le quatrième niveau, qui est le niveau diplomatique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, on fait pas juste tout ça dans notre coin, et même si les négociations et les discussions avancent pas, eh ben, faut quand même avancer, et faut quand même donner envie aux autres d'y aller aussi, et faut évidemment pas renoncer.
Donc, au contraire, le politique reste très important. Et peut-être le levier principal ou...
Bah, disons qu'en tout cas, si on fait quelque chose, enfin, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un moment quelque chose d'un peu politisé, parce que si c'est juste le marché va, c'est vrai qu'il y a des théories comme ça, hein, sur, voilà, vous inquiétez pas, je montre une courbe exponentielle du prix des panneaux solaires qui baisse, une courbe exponentielle du nombre de panneaux solaires installés, et puis, en projetant les deux exponentielles, il y a des mecs pas très sérieux, genre Tony Seba, assez rigolo sur Internet, vous irez voir. Qui arrive à expliquer que 100% du mix énergétique mondial et électrique en 2030, rendez-vous dans pas longtemps, c'est bien, dans 12 ans, on verra ce qu'on va voir. Et bon voilà, c'est un peu ridicule, mais là il y a des gens qui effectivement disent sans rien faire, laisser faire le marché, l'innovation technologique et la transition va se faire. Bon, j'ai quand même du mal à croire que ça se passe, parce que effectivement dans les innovations où il y a sans doute dans un certain nombre de cas des choses très bien, y compris en innovation technologique, eh bien on a toujours du mal à séparer le bon usage du mésusage. On a toujours du mal à séparer le grain de l'ivraie. Enfin, je veux dire, c'est toujours été comme ça. On le sait depuis longtemps. À minima depuis Oppenheimer et la bombe atomique. Hein. Enfin, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Je savais pas qu'on pourrait l'utiliser pour faire des choses méchantes. Voilà. Et donc, on a sans doute des applications et des startups très très intéressantes et qui peut-être peuvent amener des choses sympas. Et puis en même temps, on a le bikini connecté, le distributeur de croquettes pour chat qui pèse le chat et qui a le dispositif de reconnaissance faciale, quoi.
Voilà. Comment tu vois l'avenir, du coup? Comme si tu te projettes dans 20 ans, 30 ans de manière réaliste par rapport à toutes ces connaissances-là et la manière dont tu vois les choses qui bloquent le système et aussi peut-être des choses qui te donnent espoir aujourd'hui.
Bon, j'ai pas envie de me lancer dans une expertise trop de prospective, parce que je me dis, si je suis encore vivant dans 20 ans et que je veux encore tourner sur des podcasts brillants et tout ça, il faut pas que je raconte trop de bêtises aujourd'hui. Il y a trop de gens qui
se
sont trompés.
On peut couper la question après, si tu veux.
Non, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Je vais y répondre, mais de manière un peu détournée. C'est-à-dire que Moi, il y avait un livre qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelle de Bertrand Méheux, qui s'appelle La politique de l'oxymore, et qui, alors qu'il avait eu son petit succès, parce que ça avait été un peu interprété comme étant, c'était dans les années de Sarkozy, ça avait été interprété un peu comme la manière de faire de Sarkozy, c'est-à-dire je dis quelque chose et puis je fais son contraire. Ou bon. Mais c'était plus profond que ça. En fait, c'était sur la question de la saturation du monde et du fait que finalement, face à la saturation du monde en termes de pollution, de problèmes, etc. Mais en fait, on a besoin plus que jamais de surinterpréter, de mettre une couche de communication au-dessus de ça, comme quoi tout est vert, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je bétonne à nouveau lotissement et que je convertis pour toujours des terres agricoles en parking, bah c'est forcément un éco-quartier, et les supermarchés sont forcément géniaux et verts, enfin, tout est bien, et même les aéroports sont verts et éco-conçus avec tous les labels qui vont bien. Et pourtant, voilà, on continue chaque jour à détruire les conditions de vie de demain, mais tout est vert et tout est génial et tout est durable. Donc voilà, cette politique de l'oxymore, je pense qu'elle va continuer, elle va s'accentuer. C'est-à-dire que la dégradation va continuer, tranquillement, entre guillemets. Alors, il y aura peut-être des soubresauts à la baisse. Ça, ce que les amis collapsologues pourraient appeler un effondrement ou un truc. Bon, mais qui prendra des formes un peu variées et locales. Mais voilà, ça va être de plus en plus gris, de plus en plus sale, de plus en plus laid, comme dirait d'ailleurs, le pape François dans son encyclique Laudato Si, de mémoire. Et puis, on va continuer à raconter que tout est plus brillant, plus vert, plus sympa. Mais ça sera pas vrai, et ça sera pas complètement grave, parce qu'il y aura aussi un autre phénomène intéressant qui vient se rajouter là-dessus, qui est en anglais c'est shifting baseline, en français c'est décalage du point de référence. Un truc qui a été théorisé par Daniel Pauly, un spécialiste des stocks de poissons, qui a montré comme ça que sur les générations de pêcheurs, en fait, ce que un pêcheur appelait un gros poisson aujourd'hui, c'était pas tout à fait ce que son grand-père appelait un gros poisson. Voilà. Donc, il y a un décalage du point de référence, parce que les poissons étant de plus en plus petits, évidemment, parce qu'on est sur pêche. Et ben, en fait, voilà, on n'a plus du tout la même référence. Et ce truc est assez marrant et génial et applicable partout, parce que voilà, on a un décalage du point de référence partout. C'est-à-dire, mon fils, aujourd'hui, s'extasie à la vue d'un seul papillon. Et je sais pas quand il sait ce qu'il a croisé une grenouille la dernière fois, et moi des papillons, j'en voyais bien.
Le niveau de bonheur restera le même.
Eh ben, j'ai peur que effectivement, face à des rêves étroits, il n'est pas très difficile de trouver le bonheur. D'ailleurs, Rousseau disait très bien que pour être heureux, il suffit d'aligner ses espoirs avec la réalité. Enfin, je sais plus exactement l'expression qu'il emploie, mais très très belle. Donc, comme toujours.
On va attendre, un poisson, regarde.
Non, mais voilà, je pense que du coup, il y a ce phénomène, voilà, un phénomène un peu possible, de choses qui deviennent de plus en plus difficiles, mais c'est pas juste d'un point de vue environnemental. Enfin, on sait que, voilà, d'ailleurs, les classes moyennes ne se trompent pas là-dessus. Enfin, toutes les études sociologiques montrent qu'il y a la terreur du déclassement, hein. Je veux dire, donc, mes enfants vivront moins bien que moi, ça devient plus dur de se loger, de trouver un emploi sympa ou stable, etc., etc. Et puis à côté de ça, il y aura des phénomènes plutôt sympas aussi, parce qu'il y a quelques trucs qui progressent, et puis que voilà, il y a peut-être une jeunesse enthousiasmée ou enthousiasmante, parce que il y a aussi des on en a énormément sous le pied. J'ai l'exemple de la viande tout à l'heure, et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, en réduisant un peu la quantité de viande qu'on consomme, on libère des tombereaux de céréales. Enfin, il y a le gaspillage. On commencera par finir son assiette, alors qu'il y a 25 ou 30% de la nourriture qui part à la poubelle aujourd'hui en Europe. Enfin, donc on en a effectivement énormément sous le pied sur les déplacements un peu de loisirs, sur le télétravail ou sur le covoiturage du quotidien. C'est-à-dire, voilà. Là, même si le pétrole monte, bah oui, le pétrole monte, il y a 25 ou 30% qu'on met juste pour faire les allers-retours domicile-travail. Bon, on commencera à parler à son voisin de pavillon, c'est un peu chiant, on partira 10 minutes avant et on partira avec lui, puis on changera deux fois de voiture, mais on finira par arriver au boulot. Donc il y a aussi cette espèce d'aspect, voilà, j'ai dû beaucoup de mal à croire qu'une tension de, j'en sais rien, même de 10 ou 20%, par exemple, imaginons, en l'espace de quelques années sur la ressource pétrolière, par exemple. Bon, je dis, prends 10 ou 20% comme ça, puis juste pour se fixer un ordinaire. Déjà, faudrait qu'effectivement ça se passe et qu'il n'y ait pas, effectivement l'offre pétrolière baisse aussi vite, ce qui est absolument pas à démontrer. On verra bien, hein. Donc c'est tout le débat entre plateau ondulant, pic, à quelle vitesse tout ça va se faire. Est-ce qu'il y aura la falaise de Sénèque à Hugo Bardi ou les choses plus bigarrées? Mais quand bien même l'offre se contraindrait de 10 ou 20% d'un coup,
Et je veux dire, c'est évident qu'on peut baisser de 10 à 20%
d'accord, donc 30 ou 40-50%
la consommation d'énergie sans que la voiture de pompier s'arrête, quoi. Parce qu'en gros, c'est ça le débat. Enfin, je veux dire, c'est, est-ce que les services de base s'arrêtent dès demain matin? Bon, j'ai du mal. Voilà. Je pense pour moi que les ressources, toute cette problème de ressources qu'on a vu est très embêtante d'un point de vue moral et philosophique d'abord. Parce que il y a de la destruction, enfin. Parce qu'il y a cette question de que feront les générations futures dans longtemps, mais bon, on pourrait reprendre les mots de Samproun et puis dire c'est finalement on s'en fout de savoir quelle planète on laisse à nos enfants. Il faudrait d'abord savoir quels enfants on laisse à la planète. Bon, ce qui est pas inintéressant comme réflexion, mais et puis bon, donc c'est philosophique et moral à long terme. À court terme, c'est quand même un problème de destruction, environnementale accélérée. Enfin, je veux dire, voilà, quand même les stocks de poissons, d'oiseaux, de batraciens, de tout s'effondrent. Enfin, donc le plastique dans les océans, etc. C'est quand même c'est pas très sympa tout ça. Voilà. Mais est-ce que c'est une cause d'effondrement sur le mode tout va s'arrêter demain matin? J'ai du mal à croire. Par contre, il y a plein d'autres paramètres pour lesquels ça peut tout à fait se passer, parce qu'on peut imaginer des virus informatiques immaîtrisables, des problèmes bancaires ou autre. Enfin, il y a tout ce qu'il faut en termes de joker, je dirais, pour
des points de rupture aussi
pour faire des voilà. Oui. Exactement.
Dernière question, est-ce que t'as un livre, on en a cité plusieurs, mais un livre récemment qui t'a particulièrement touché ou inspiré?
Ouais,
pas forcément sur ces sujets-là.
Oui, ça dépend ce qu'on appelle récemment. Alors, tiens, j'aurais envie de proposer un roman, comme ça va nous changer des essais un peu difficiles et je sais pas quoi. Karel Čapek, La guerre des salamandres. Voilà, ça a été écrit dans les années 30 et ça a pas pris une ride.
Très bien, je le mets dans ma bibliothèque.
Ouais, absolument.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci, Julien.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.